Bonjour Patrick.
Salut Eve-Marie.
Alors tes textes sont vraiment beaucoup, abondamment relayés sur les médias sociaux. Et ça, ça suit là, tout de suite la publication, ça part. Et on s'est posé la question tout à l'heure, si on fait le bilan des œuvres de Patrick Lagacé, quelles chroniques ont suscité le plus de réactions cette année?
Je pense que la chronique que j'ai faite sur les milléniaux, j'ai écrit une chronique, je pense que c'était au printemps, sur les jeunes de 20 ans, disons entre 25 et 30, et leur attitude face au travail. Écoute, ça a eu l'effet d'un feu d'un feu de broussailles sur Internet, parce que ça parlait de gens qui sont beaucoup sur Internet, les milléniaux, et ils lisent pas forcément la presse, ils lisent pas forcément ma chronique, donc la chronique a été relayée et très attaquée. Je pense que à un moment donné, je comptais plus le nombre de blogueurs Facebookineurs, Instagrammeurs qui me répondaient.
Ouais, on voyait beaucoup.
Que j'avais absolument rien compris.
Ouais, on voyait beaucoup passer lettre à Patrick Lagacé, non pas lettre à un jeune millénial. Il y a eu aussi une chronique très touchante sur les handicapés à Alma, au Lac-Saint-Jean.
Oui, ben tu vois, ça touche à au service de santé, aux services de sociaux, parce que tu sais, on connaît toute la réalité des CHSLD, c'est concret, on connaît cette réalité là parce qu'elle est couverte dans les médias, parce qu'on a des proches qui sont là, mais il y a aussi toute la question de ce qu'on appelle les ressources intermédiaires. Les ressources intermédiaires, ce sont des endroits qui accueillent des gens qui sont poqués, hein. Des fois ce sont des gens qui ont des problèmes cognitifs, des fois ce sont des gens qui ont des problèmes physiques, des fois des gens qui ont les deux types de problèmes. Et à Alma, on a construit une ressource intermédiaire qui est formidable. C'est un OBNL qui gère ça. Mais des problèmes de financement qui, à mon sens, sont pas insurmontables, étaient sur le point de forcer l'évacuation de ces gens-là. Fait que je suis allé les voir. Je suis allé voir c'était quoi leur quotidien. Ouais. Je suis allé les écouter. Puis, écoute, ça a eu un retentissement à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont vu la lumière et puis on a essayé de trouver des solutions. Mais, tu sais, ces gens-là, là où ça me touchait, c'est que ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources pour se mettre sur la place publique, pour se mettre à manifester, pour protester. Ils n'ont pas d'argent pour payer des lobbyistes. Qui parle pour eux? Ben regarde, il y a quelqu'un qui m'a signalé leur cas, puis je suis sauté dans mon char, je suis monté à Alma. Je pense que ça a fait une bonne chronique.
Oui.
Exact.
Oui. Et l'affaire Gilbert Sicotte. Écoute, à la suite d'un reportage présenté à Radio-Canada, tout le monde avait son opinion. Toi, tu as écrit aussi là-dessus. Certains qui trouvent qu'on est rendu un petit peu trop douillet. D'autres qui, au contraire, sont en faveur du coup de pied dans le derrière quand on apprend.
Ouais, ben Gilbert Sicotte, grand comédien, mais aussi ça c'était moins connu, enseignant au Conservatoire d'art dramatique, et là Radio-Canada, il y a quelques semaines, fait un reportage sur les méthodes d'enseignement, disons assez viril de M. Sicotte. Et là, comme beaucoup de gens, moi ce qui m'a irrité, Eve-Marie, c'est la facture du reportage de Radio-Canada. Écoute, je me remémore là la façon dont l'entrevue est menée par le journaliste avec Sicotte. Et là, écoute, on a l'impression d'un journaliste qui a découvert l'arnaque du siècle. On a l'impression d'un journaliste qui a débusqué Vincent Lacroix avant que Vincent Lacroix fasse ses fraudes, tu comprends?
Ouais.
Et moi, je trouvais que, oui, écoute, il y a probablement un sujet à faire sur les méthodes d'enseignement qui, dans le climat actuel, deviennent rapidement périmées. Sauf que de traiter ça de cette façon-là, me semblait-il, avec un reportage de 8 minutes au téléjournal, suivi d'une discussion après ça, je pense, de 7-8 minutes. Écoute, si ça vaut 15 minutes au téléjournal, je veux dire, on va mettre combien de minutes sur la guerre civile au Yémen, on va mettre combien de minutes sur les réserves autochtones qui n'ont pas encore d'eau potable, des trucs comme ça. Donc, il y a une question de proportion, moi, là-dedans, qui m'avait fait tiquer. J'ai fait une chronique là-dessus, puis ça aussi, ça a été extrêmement partagé cette année.
Ouais. Tu viens de le dire, dans le climat actuel, parce que là, si on regarde le bilan de l'année médiatique, politique, sociale aussi, tout ce qu'on vient de traverser. Peut-être que ce qui retient le plus l'attention, c'est cette prise de conscience partout sur le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. À oui. quel point, selon toi, tout ça part de Harvey Weinstein? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, nous, au Canada, avec Yann Gomeshi, on avait commencé à en parler, mais oui. juste commencé.
Ben, tu vois, en 2014, il y a eu agression non dénoncée. Et ça avait été canadien, mais ça s'était étendu un peu partout dans le monde aussi. C'est-à-dire que là, les gens, des femmes surtout, racontaient leurs expériences en matière de d'agression sexuelle. Puis les agressions sexuelles, c'est un spectre, hein, ça peut être des touchés non désirés, jusqu'à des agressions, c'est des viols par inconnus. Et là, il y a des yeux qui se sont ouverts à cette époque-là, je pense, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui réalisaient pas à quel point c'était répandu. Arrive Me Too, et moi je pense qu'il y a comme une relation symbiotique, hein, c'est-à-dire que c'est le New York Times qui a lancé cette bombe-là, qui a fait une enquête sur Harvey Weinstein, le producteur et distributeur de cinéma, super connu aux États-Unis, super connu dans le monde du cinéma, mais sans le reportage du New York Times, le mouvement Me Too, moi aussi, ne voit pas le jour. Et après ça, toutes les autres dénonciations, beaucoup d'autres dénonciations, pardon, au Québec et ailleurs, ben, je pense qu'elles auraient pas vu le jour, n'eût été de cette prise de parole-là des femmes sur Internet. Mais des hommes aussi, hein, parce que, y a aussi eu l'enquête, là, qui a touché, Éric Salvaille, où les victimes étaient bien souvent des hommes. Mm-hmm. Donc, c'est une relation, tu vois toute la nature du paysage médiatique aussi qui a changé. C'est-à-dire que les médias sociaux, la prise de parole des citoyens, mais ça peut avoir un impact aussi ouais. Dans le réel. Puis ça, c'est un exemple vraiment spectaculaire.
Le média traditionnel, dans ce cas-ci, la presse écrite sort l'histoire, mais après ça, ça va débouler. Puis des fois, il y a même des règlements de compte. Puis ça, on retrouve ça ben, sur le web. Il y a une espèce de dénonciation publique aussi qui se passe sur le web. Est-ce que, selon toi, c'est peut-être un échec de notre système judiciaire?
Ben, il y a le système judiciaire, mais il y a aussi le système de ressources humaines, parce ouais. que, tu sais, oui, il y a la question des agressions sexuelles, mais il y a aussi la question du harcèlement sexuel en milieu de travail. Moi, je pense que l'évidence, elle est bien simple, c'est que il y a beaucoup de milieux de travail qui ont beaucoup de difficultés à dealer avec ça. C'est-à-dire, comment tu encadres ça, comment tu réprimes ça, comment tu sanctionnes ça. Ce qu'on a vu dans la saga, juste pour rire avec Gilbert Rozon, ce qu'on a vu avec la saga Weinstein, c'est aussi, il y a des questions d'harcèlement sexuel là-dedans. Ce qu'on a vu dans la saga Éric Salvaille aussi, il y a une mm-hmm. question de relation de travail. Quand ton patron, quand t'es un pigiste puis ton patron, c'est le président de la compagnie, comment tu te défends, à qui tu vas te plaindre? Mais il y a beaucoup d'histoires de dénonciations qui sortent, là, tu sais, on débusque toutes sortes de salauds par des enquêtes journalistiques surtout, mais à un moment donné, il va falloir se demander comment est-ce que on règle ces problèmes-là en amont, comment on nettoie les relations de travail. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité d'employeur, mais il y a aussi une réflexion de société sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et une responsabilité syndicale ou d'association, parce qu'on a vu l'UDA se dépêtrer aussi avec ses propres histoires, puis on s'apercevait que les pigistes, comme tu disais, avaient pas vraiment d'écoute. Où est-ce que je vais, moi, pour me... Qui va me défendre? Qui va m'écouter dans cette histoire-là? Alors, en mettant ça sur la place publique, oui. la réflexion se fait maintenant.
Oui, il y a une prise de conscience que tout ça était dans une sorte d'angle mort. Puis c'est un peu paradoxal parce que ça fait longtemps qu'on parle d'harcèlement sexuel. Ça fait longtemps que c'est connu. Ça fait longtemps que ça existe comme problématique. Ça fait longtemps qu'il y a des employeurs qui sont sanctionnés pour ça. Mais ce qu'on a découvert l'automne dernier, c'est que les milieux de travail sont encore assez démunis face à ça. Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire? Moi, je pense que parfois, il y a de l'aveuglement volontaire. Là, si on prend les cas les plus médiatisés, disons qu'il y a un incitatif très fort pour beaucoup de gens à ne pas voir la réalité quand les harceleurs sont des gens, on va résumer ça comme ça, des gens sur qui toute la business tient ou une grande partie de la business tient.
Oui. Autre affaire, Patrick, qui retient l'attention dans notre bilan, c'est un phénomène qu'on a vu en Europe, qu'on a vu aux États-Unis, mais qui est rendu chez nous, la montée des extrêmes, qu'elle soit de oui. gauche ou de droite, mais maintenant au Québec, ben ça fait partie du débat sur l'espace public.
Oui, il y a une montée des extrêmes. Personnellement, moi, je trouve que ça n'a pas commencé cette année. Je pense qu'il y a eu une désinhibition avec Trump. Trump a libéré une parole, a rendu respectable, entre guillemets, une parole qui cible les étrangers, qui cible les musulmans, par exemple. Mais on sentait que le courant sous-marin était là depuis longtemps, depuis les attentats de 2001. Je veux dire, il y a une parole qui s'est libérée, il y a une suspicion qui s'est galvanisée face aux musulmans. Et, tu sais, disons que ça a été poussé à sa plus extrême limite avec l'attentat qu'il y a eu à Québec le 29 janvier. Donc, oui, moi, ça m'inquiète. Il y a aussi la montée des extrêmes à gauche, c'est vrai. Personnellement, moi, je le vois plus comme quelque chose, une sorte de groupuscule. Je sens pas qu'il y a un grand terreau dans les populations au Québec, au Canada, par exemple, pour le genre de société que l'extrême-gauche veut voir arriver. Par contre, l'intolérance, l'extrême-droite, personnellement, m'inquiète davantage, même si j'ai toujours dit que c'est pas un référendum, tu sais. C'est pas parce que je dis que l'extrême droite me dérange que je trouve que je suis d'accord avec les méthodes de l'extrême gauche. Mais il y a toujours cette tentation, je trouve, de la violence qui vient avec les extrêmes. Et là, ça nous arrive en pleine face en 2017.
Ouais. T'as nommé Donald Trump. Quelle place il occupe dans le bilan? Moi, j'avais envie de dire, je peux pas le limiter à un seul sujet. C'est Donald Trump et l'ensemble de son œuvre. Entre autres, ses attaques envers la Corée du Nord. Ça aussi, on en a beaucoup parlé cette année.
Ben, tu vois, tout le personnage Trump, on aurait besoin de toute ton émission de radio pour faire le tour, puis encore là, on n'aurait pas fini. Mais tu sais, tu parles de ses attaques sur la Corée du Nord. Bon, ça, c'est une chose, c'est pas la façon traditionnelle de faire une diplomatie. Et si tu regardes tout le cadre sécuritaire, diplomatique qui est né de la Deuxième Guerre mondiale, il est pas parfait, mais il a quand même assuré une certaine stabilité dans le monde.
Oui.
Et puis, prendre la Corée du Nord de front, probablement que si ton éducation en histoire, en politique puis en diplomatie, elle se fait avec des films américains de série B, c'est fantastique ce que fait Donald Trump. Mais ceux qui connaissent ça sont présentement terrorisés par sa façon de gérer ce dossier-là. Donc ça, c'est une chose. Puis
Quand tu traites ton rival de Little Rocket Man, là, ça donne aussi le ton aux échanges diplomatiques qui n'auront pas lieu.
Oui, mais c'est parce que on dit ça à une puissance nucléaire, ne l'oublions pas. Puis il y a pas de guerre nucléaire possible avec des résultats qui puissent être satisfaisants pour aucune des parties. T'sais, on a peut-être tendance à oublier ça, mais s'il y a une guerre avec la Corée du Nord, les États-Unis ont beau être la première puissance mondiale en termes de capacité militaire, ça va être dévastateur pour ce coin du monde-là, puis ça risque de l'être pour un peu pour d'autres endroits dans le monde. Mais moi, ce qui me trouble le plus dans le cas de Donald Trump, c'est comment il traite les pays amis des États-Unis. Comment il traite le Canada, mais comment il traite l'Allemagne, comment il traite la Grande-Bretagne. Je veux dire, contraste ça avec la façon qui est la sienne de traiter la Turquie, la Russie, la Chine. Je veux dire, les amis traditionnels des États-Unis, des alliés indéfectibles se font passer le gant d'en face en langage de hockey, puis des gens comme Erdogan en Turquie, des gens comme Poutine en Russie, ben ils ont toute son admiration et il n'y a jamais de mauvais mots pour eux autres.
Puis à chaque attentat qui malheureusement a eu lieu ailleurs dans le monde, qui a frappé des villes ailleurs dans le monde, quand il envoie son message de sympathie, peu de temps après, va suivre un autre message où il rappelle ses politiques d'inclusion et de fermeture de frontières et de si vous faisiez comme moi je m'apprête à faire, vous n'en auriez pas de problème. Ça aussi, ça aide pas le débat, là.
Ben, en fait, je pense pas qu'il souhaite aider quelques débats que ce soit. Ce qu'il veut, c'est plaire à sa base.
Ouais.
Et il y a un marché politique, pas juste aux États-Unis, mais partout ailleurs, pour des solutions simplistes à des problèmes complexes. Je veux dire, t'as beau dire que tu vas fermer les frontières, bien souvent, le trouble vient de gens qui sont établis à l'intérieur de tes frontières, puis parfois depuis longtemps. C'est une chose de paranoïer sur le terrorisme qui est commis au nom de l'islam, mais je veux dire, quand 500 personnes se font tirer dessus à Las Vegas, et puis que t'as absolument pas de réaction législative contre contre la libre circulation des armes à feu, ça te dit quelque chose sur ton intérêt à géométrie variable pour la vie humaine.
C'est vrai, c'est vrai. Belle réflexion sur Donald Trump. Et on peut pas finir un bilan sans pas parler d'argent. Il faut absolument parler d'argent. Les recettes fiscales. Chez nous, il y a plusieurs nouvelles qui ont concerné ça. Entre autres, Ottawa, qui renonce à soumettre les géants du commerce numérique au régime fiscal habituel. L'affaire Netflix.
Ben, ça, je te dirais, c'est la preuve du génie politique de qui? De Stephen Harper. Parce que Harper, dans les mois qui ont précédé la campagne de 2015, Eve-Marie, a fait une vidéo qui a frappé l'imaginaire des Canadiens, qui a frappé l'imaginaire de la vie politique canadienne. Il a dit, avec moi, là, moi, j'aime ça, Netflix, et j'aime, ma série préférée, c'est...
Breaking Bad.
Fait que là, bon, Stephen Harper qui parle de Breaking Bad, c'est un peu bizarre. Et il a dit, si, nous, là, avec les conservateurs, là, je vous le dis, il n'y aura jamais de taxe Netflix. En parlant de taxe Netflix, il a cadré le débat. Puis il a cadré le débat comme s'il s'agissait de d'imposer une nouvelle taxe à Netflix.
Oui, puis il n'y en avait jamais été question.
Non, parce que ça fait partie de l'économie dématérialisée. Mais regarde, il y a une grande partie de l'économie qui s'en va sur Internet. Si tu fais comme moi tes emplettes d'un boutique, là, pis si tu parles aux commerçants, moi je trouve que c'est cette année que les commerçants ressentent vraiment douloureusement l'impact du commerce électronique. Mais regarde, si la boutique de produits de cuisine puis la boutique de produits de sport, d'équipement de sport, elle, on va la taxer autant qu'on peut, mais quand tu achètes tes équipements de sport, tes équipements de cuisine d'un géant multimondial qui n'est pas taxé, moi je trouve que c'est absolument injuste. Fait que là, au moins ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est qu'on commence à parler de recettes fiscales. Puis, tant qu'à parler de recettes fiscales, on a aussi beaucoup parlé cette année de paradis fiscaux avec Paradise Papers.
Ça, c'est l'autre affaire injuste. C'est que les gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'argent réussissent toujours à en cacher puis à se soustraire.
Pas seulement les gens. Pas seulement les gens, les compagnies aussi. Tu sais, on veut tous que nos aînés aient deux bains par semaine en CHSLD. On veut tous rouler sur des routes qui sont lisses comme des tapis. Mais pour ça, là, ça prend de l'argent. Puis, si les gouvernements continuent à renoncer à des recettes fiscales comme ils font avec les géants du commerce numérique, et beaucoup de compagnies qui prennent leurs profits, qui les envoient dans des paradis fiscaux, ne serait-ce que pour transiter, ben c'est toi et moi et tes auditeurs qui allons devoir combler le vide. Donc, il y a une question d'équité fiscale qui est tombée sur le tapis. Moi, j'accueille ça. Il y a M. Simons aussi, à Québec, qui en a beaucoup parlé. Je trouve qu'il a fait œuvre utile, M. Peter Simons, dans ce débat-là. Ben écoute, ça a été aussi l'année du fric, mais aussi de l'impôt.
Ça a été un plaisir de te parler, Patrick. On se dit à l'année prochaine.
Joyeuses fêtes à toi et à tout le monde. Oui, on se parle l'année prochaine.